Maintenant à la session de questions-réponses. Je vous rappelle qu'on a ici dans la salle M. Abdulaziz Tioye pour les droits de l'homme, le docteur Mukinda de l'OMS qui peut répondre à vos questions sur l'Ebola. Et je remarque aussi qu'à Goma, on a le commandant de la force de la MONUSCO, général Carlos dos Santos Cruz, qui est là, qui peut aussi répondre à vos questions. Donc je vous demande maintenant d'éteindre vos portables ou de les mettre sur silence. Et on va commencer aujourd'hui par Kinshasa. Je prends maintenant à gauche. À gauche, Kinshasa. À gauche, là.
Merci, Steve Wenby pour Chine Nouvelle. Deux petites questions. Monsieur Carlos, le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé à la SADC d'accélérer le processus de désarmement pour les rebelles rwandais, alors que la SADC et la CIRGL ont accordé une période de 6 mois pour ces rebelles. Est-ce que vous ne contredisez pas soit la position de ces deux communautés? Merci.
Non, je ne pense pas qu'il y ait de contradiction. Si vous avez lu le communiqué de presse, le communiqué de presse dit clairement que le Conseil de sécurité prend note du période de 6 mois qui a été accordée pour le désarmement des FDLR. Et le communiqué de presse aussi est en ligne avec tout ce que le SASJ, M. Kobler, a communiqué au Conseil de sécurité pendant la réunion du début de ce mois. Donc je pense que c'est un communiqué de presse qui est complètement... Il n'y a aucune contradiction dans ce communiqué de presse et la position de la MONUSCO. Je ne sais pas si le colonel Bast veut ajouter quelque chose.
Peut-être juste pour rappeler que, comme vous l'avez si bien dit, aucune contradiction n'est à relever dans ce communiqué de presse, parce qu'il est très explicite dans la mesure où il dit de manière très formelle, certes, des efforts politiques sont menés, et comme vous le savez, un délai de 6 mois est accordé au FDLR jusqu'en fin décembre 2014, mais vous savez aussi qu'il y a une évaluation d'étape qui est programmée au mois d'octobre pour évaluer de manière très précise les efforts qui ont été faits dans le sens de la réduction des FDLR. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de ceux qui sont dans le processus de réduction, il y en a qui ne sont pas dans le processus de réduction, qui continuent à recruter des enfants, qui continuent à mener des exactions contre les populations civiles. C'est à cela aussi que s'adresse le communiqué, qui stipule de manière très claire que ces gens-là devraient être neutralisés pour éventuellement mettre fin à ces exactions-là. Donc aucune contradiction, beaucoup plus de clarté, une position réaffirmée par ce communiqué de presse qui permet à FDLR de prendre bien bonne note de la détermination de la communauté internationale.
On continue ici à ma gauche.
Merci pour les micros. Saint-Germain-des-Prés, les chevaliers de la plume. Une question pour M. Joseph Potopoto, dont voici les libellés. Lors du temps de parole, vous impactiez, vous avez mis en vedette la date du 2 novembre comme devant être fixée comme journée internationale de la lutte contre l'impunité en rapport avec les crimes perpétrés à l'endroit du journaliste. Ces futurs proches me rappellent un passé récent. Nous sommes les 3 mai, durant lesquels l'UNESCO avait souligné son soutien pour l'existence d'une presse à la fois plurielle, démocratique et libre. Alors qu'il est, le ministère de l'Information vient de frapper d'interdire la publication d'une soixantaine de journaux autant allant porter le vent.
Quelle est la question?
Ma question est de savoir quelle est la réflexion de l'UNESCO par rapport à ces vents qui a emporté tous ces journaux.
Merci. Merci. Merci pour...
Merci pour la question. Le ministère de médias assure la réglementation du fonctionnement de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Et j'ose croire que tout le média, en particulier les journaux qui publient en RDC, sont censés respecter ces textes réglementaires. Je crois que si cette mesure a été prise, c'est par rapport au non-respect par ces médias de normes réglementaires. C'est ce qui nous a été officiellement dit par le ministère de la Presse et de Médias que nous avons contacté sur cette question qui nous a paru un peu préoccupante. C'est vrai qu'ils nous ont dit qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises dans la suppression de certains journaux. Ceux qui ont été suspendus, peut-être par erreur, pourront être rétablis dans leurs droits. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit au niveau de ces ministères. Donc l'UNESCO n'a pas un point de vue quelconque à donner sur ce point.
Ok. Merci. On revient, on continue ici à ma gauche, avant de partir à Goma.
Oui, Jean-Pierre Kaimber, TGFM. Une question au colonel Félix Basse par rapport au FDLR. On sait qu'ils vous ont une fois de plus nargué et vous ont défié. Ils ne se sont pas rendus. Ils continuent à recruter. Vous nous avez dit autour de cette même table qu'il sera difficile de les combattre parce qu'ils se déplacent avec femmes et enfants. Pourtant, les conseils de sécurité veulent qu'il faut accélérer, veulent qu'on accélère de mécanismes pour les combattre. Est-ce que vous pensez à tout ça?
Mon général, d'abord.
Ok, bonjour. Merci beaucoup. Il y a des informations de le recrutement d'enfants, recrutement de combattants par la FDLR. C'est nécessaire de savoir exactement. Recrutement, combien de combattants, combien d'enfants. Et il y a trois FDLR, il y a le FOCA, SOC et RUDE. Alors, il a été une réunion ici à Copan avec les FRDC pour coordonner l'opération contre les FDLR à propos de Chacha, de Nyami Lima e de outros. Alô? Se quer servir as informações e nos allons prendre as medidas apropriadas.
Merci beaucoup. Je crois qu'on a des problèmes techniques que de Goma. Je ne sais pas si le colonel veut ajouter quelque chose à la réponse du général.
Oui, je pense que le général a circonscrit le problème dans son essence. Ce qu'il faudra d'abord tout simplement retenir, c'est que il faut pas percevoir cette dynamique de réduction des FDLR comme étant une fin en soi, parce que c'est autour de certains fondamentaux que la communauté internationale avait bien voulu accorder, évidemment la communauté internationale plus la SADC et la conférence internationale des Grands Lacs a bien voulu accorder un délai supplémentaire au FDLR pour aller vers un processus de réduction. Mais c'est un désarmement volontaire et nous l'avons toujours dit aussi, l'option militaire est restée sur la table, reste sur la table, et comme le général l'a dit, des planifications sont en train d'être menées pour mettre un terme à ceux des FDLR qui continuent à perpétrer des exactions contre des populations civiles.
Merci. On va maintenant à Goma. Si les problèmes persistent à Goma, les problèmes techniques, on va nous concentrer ici à Kinshasa. Mais on va voir comment les choses à Goma. Kombo, est-ce qu'on peut avoir trois questions de Goma?
Oui, c'est ma Balissane. Oui, il y a Inga Pachin de AP.
Oui, merci beaucoup, c'est Inga Pater de Associated Press. Ma question est focalisée et adressée au commandant Santos Cruz. Je viens fraîchement de l'Ituri, au sud de l'Ituri. Vous êtes en train de traquer les groupes armés au nord et au sud de Kivu. Pourquoi pas dans l'Ituri où les groupes armés Cobra Matata se trouve dans le sud Ituri et je me permets aussi de féliciter aussi les bataillons de Bangladesh qui continuent toujours à faire les patrouilles dans les toutefois je voulais savoir pourquoi vous ne voulez pas aussi faire les tracts au groupe Cobra Matata FRPI. Merci.
Pourquoi? Pour la question. FRPI, le groupe de Cobra Matata et tout, fait beaucoup d'actions de crimes presque tous les jours. Il y a beaucoup de violations des droits de l'homme pour les groupes de corps matata. Et je vais demain, je vais à Ituri pour coordonner avec la je vais renforcer les troupes de Monusco là-bas pour une action. Je vais demander de la coordination avec les affaires de ces comptes comme matin.
Alain Wandimoy.
Oui, Alain Wandimoy, ici à Grand Lac. Moi, je reviens à la question des FDLR. L'ONU a décidé de traquer les FDLR. Ils continuent à menacer la population. Quid du programme de démobilisation que le gouvernement avait lancé? Est-ce que ne pouvez-vous pas trouver une solution et en créer un autre problème, car le problème des FDLR demeure un peu plus, car ils se déplacent avec la population et ils ont des alliances avec la population dans le Nord Kivu.
La question s'adresse au général.
Merci beaucoup. Il y a deux points. Le premier, c'est le problème de démobilisation. C'est une possibilité par tous les combattants, tous les groupes armés, de participer au programme de démobilisation. Mais il y a beaucoup de groupes qui ont refusé l'opportunité. Hein? Il y a FRPI, il y a Tchèque, il y a Raymond Tomboki, beaucoup de groupes.
On vient de perdre le contact avec Goma. Je crois qu'on va se concentrer ici à Kinshasa parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. Je ne sais pas si c'est à cause des conditions climatiques, mais on a beaucoup de problèmes avec Goma, avec la qualité du son qu'on reçoit de Goma. On va passer ici à ma droite. Le micro. Très vite. Oui,
oui merci. Et Albert Omban, America TV. Je voudrais juste voir le docteur qui est responsable de l'OMS de nous brosser à quelques lignes la situation épidémiologique Ebola au niveau de Djerba. Quelles sont les dispositions que l'OMS a prises? Est-ce que Kinshasa est menacé? Autant de questions que vous pouvez nous donner, juste un petit aperçu, docteur. Et la seconde préoccupation au responsable des droits de l'homme, il y a eu invention, il y a une centaine de personnes qui ont fui la prison de Bandundouville, dont des officiers FRDC ont été incriminés comme étant auteurs. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre de ces fuites de prisonniers à Bandundouville?
Ok, première question sur Ebola pour le docteur Mukinda.
Merci beaucoup pour la parole. La question sur Ebola, de savoir qu'est-ce que l'OMS a prévu pour cette épidémie. En fait, depuis bien avant la déclaration de cette épidémie de maladie à virus Ebola en RDC depuis le 24 août par son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé publique, le ministère de la Santé, avec l'appui de ses partenaires dans l'OMS, avait déjà commencé la préparation suite à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. C'est suite à ce réveil de la surveillance épidémiologique qui était renforcée aux postes frontaliers et à l'intérieur du pays qu'est venue la détection aussi rapide des cas de maladies à fièvre hémorragique dans la zone de santé de Boende. Nous sommes ici dans la province de l'Équateur. Il faut noter que les cas sont apparus dans des localités à l'intérieur de la zone de santé de Boende, des localités qui sont enclavées. Il s'agit des localités Lokolia et Watikonge, des localités qui sont vraiment enclavées de la ville de Boende. Ils sont à 70 km et à 100 km de la cité de Boende. Et Boende, la cité elle-même, se trouve à 600 km du chef-lieu de Mbandaka. Boende se trouve à 1200 km de Kinshasa. Et donc, compte tenu de la configuration de cette situation, il y a peu de craintes à ce que Kinshasa soit menacé. Et compte tenu des mesures qui sont mises, la surveillance épidémiologique est renforcée, et toutes les mesures de recherche des cas actifs dans le lieu de l'épidémie, et le suivi des contacts des malades, nous pensons que Kinshasa n'est pas très menacé par cette épidémie. Voilà.
Merci beaucoup. La deuxième question, c'était pour les droits de l'homme.
Alors, le micro là ne marche pas. Alors, oui, pour ce qui est des évasions de la prison de Bandundu-Ville, nous avons été informés de cet incident. Notre bureau de terrain de Bandundu, compte tenu des investigations et en collaboration avec les autorités pénitentiaires et ainsi que la justice, pour essayer de comprendre un peu les circonstances derrière cette évasion. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en réalité, les évasions sont fréquentes en RDC pour les raisons que nous savons tous, en raison de la vétusté des infrastructures et également du manque de surveillance. C'est des fonctions qui ne sont pas remplies. Et du coup, évidemment, il faudra s'attendre aussi à ce qu'on ait d'autres cas d'évasion dans d'autres prisons du pays. Merci.
On prend une deuxième question ici à ma droite maintenant. Kinshasa. Après, on va essayer une dernière fois à Goma pour voir si ça marche, mais on continue ici à Kinshasa.
Merci.
Allez-y.
La télévision centrale de Chine, Ale Waikani. J'ai une question à M. Carlos. Le lundi, le gouvernement congolais, à travers le ministre de la Santé et le vice-ministre des Affaires étrangères, avait clairement lancé l'appel à l'aide pour, n'est-ce pas, faire face à la situation qui se passe maintenant à l'Équateur, notamment l'aide logistique, parce que Djera est enclavé. Est-ce que la MONUSCO, qui déjà assiste le gouvernement naturellement sur ce plan-là, a déjà fait un rapport, peut-être au niveau du Conseil de sécurité, pour voir ce qu'il peut faire pratiquement, parce que l'Équateur aussi que la MONUSCO n'a pas assez d'effectifs. Qu'est-ce que vous avez déjà essayé de mettre sur pied pour aider le gouvernement? Et monsieur le docteur, à Genève, le porte-parole de l'OMS a dit que l'OMS avait déjà déployé de l'aide pour faire face à la situation. Sur le plan pratique, qu'est-ce qu'il a déployé? Les médecins, médicaments, c'est quoi exactement? Merci.
Merci beaucoup. La première partie de la question sur le soutien de la MONUSCO, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une demande de soutien. Ce soutien sera être logistique. On n'a pas encore les détails parce que la MONUSCO vient de recevoir cette demande et est en train d'étudier quel genre de soutien il peut apporter au gouvernement. Mais je pense qu'il y aura, donc quand je parle de logistique, je parle de transport, je parle des tentes, je parle de nourriture, des choses comme ça. Donc il y aura, donc les détails, on les aura dans les prochains jours. Mais la MONUSCO va soutenir le gouvernement sur le plan logistique. Sur le plan des financements, vous savez que le gouvernement a lancé un appel de 4 millions et demi de dollars pour combattre l'épidémie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du système des Nations Unies, donc vous savez que le gouvernement a dit déjà qu'ils ont 1 million et demi. Au système des Nations Unies, 1,5 million aussi va venir de ce qu'on appelle des pooled funds. Pooled funds, c'est un mécanisme de financement où les bailleurs mettent l'argent pour répondre aux besoins humanitaires en RDC. Et ça, c'est géré par l'OCHA. Donc ça, c'est déjà disponible. 1,5 million, déjà disponible. Un autre 1,5 million est en train d'être demandé. Il y a un appel à un cours. Et ça va venir du CERF. Rapid Response. Donc CERF, c'est un mécanisme de financement basé à New York, qui est géré aussi par le OCHA, et par le PNUD, et qui répond aux besoins humanitaires dans tout le monde. Donc un appel a déjà été fait d'1,5 million, est en cours. Donc on a de bons espoirs qu'on va avoir aussi 1,5 million de ce côté-là. L'UNICEF a déjà disponibilisé 200 000 $. C'est déjà prêt. Et le PNUD a fait un appel pour 200 000 $, donc l'appel est en cours. La Banque mondiale a promis d'aider, mais n'a pas encore donné les chiffres. Donc c'est ça. Donc je pense qu'il y a des espoirs que cet appel va être il va être une réponse très rapide à cet appel. La deuxième partie, docteur.
Oui, merci. Concernant l'appui de l'Organisation mondiale de la santé à la lutte contre cette épidémie, vous savez que l'Organisation mondiale de la santé est toujours aux côtés du ministère de la santé bien avant cette épidémie et toujours. Ici, de la préparation jusqu'à l'intervention actuelle, l'OMS donne son appui technique au ministère de la Santé dans la surveillance épidémiologique, l'investigation et même l'intervention qui a eu dernièrement dans la zone de santé de Boende. Quant aux dispositions qui sont prises, effectivement, il y a des ressources humaines de l'OMS sur terrain et il y a des kits de protection individuelle qui ont été prépositionnés bien avant l'apparition des cas de maladies à virus Ebola dans toutes les provinces de la RDC et actuellement, spécifiquement dans la zone concernée, il y a des kits de protection qui sont mis à disposition de cette zone de santé pour mieux prendre en charge les cas de maladies à virus Ebola. Voilà.
Merci beaucoup. On vient de perdre Goma, donc les problèmes techniques persistent. On va continuer ici à Kinshasa. Une dernière question à ma droite avant d'aller de nouveau à gauche. À ma droite.
Roger Marley Lukunga pour le journal Le Paris. Je suis particulièrement touché par le fait que l'UNICEF puisse décréter la journée du 2 novembre dédiée à la cause des journalistes.
UNICEF ou UNESCO ?
Ou l'UNESCO. Pour l'assassinat des deux journalistes français, Vernon et son caméraman. Mais ce qui n'a pas été dit, c'est qu'à cette même date du 2 novembre, cette fois en 2005, mourait un journaliste congolais qui a été assassiné. C'était Franck Ngueke. Voilà donc ce qu'il fallait reconnaître. Maintenant, ma question a une portée séquentielle et sécuritaire. Donc elle est adressée au lieutenant-colonel Bass. Que doit-on comprendre du rapport sécuritaire que vous avez dressé ? Se sont-elles créées deux nouvelles factions chez les Maïmaï, faction Alexandre et faction Charles Quint?
Merci. D'abord, il faut comprendre que l'origine de ces groupes armés, d'abord il faut localiser ces groupes armés qui se trouvent particulièrement dans la province du Sud Kivu. Et il y a beaucoup de factions au sein des Maïmaï, comme au sein des Rahia Mutomboki. Donc nous avons là deux groupes Maïmaï qui s'affrontent justement pour le contrôle d'un leadership dans la région de Shabunda, comme vous le savez. Et depuis un certain temps, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris la résolution de mettre un terme à l'insécurité qui prévaut dans cette zone-là. Oui, des groupes armés Maïmaï, il y en a à foison. Oui, des groupes Maïmaï et Rahia Mutomboki aussi, il y en a beaucoup. Mais justement, leur conflit interne est surtout motivé par justement le contrôle d'un leadership dans la région. Donc c'est ce que je peux vous dire sur Charles Quint et Alexandre.
Merci. Avant d'essayer Goma de nouveau, je vais donner la parole à mon collègue de l'UNESCO, Joseph, qui va un peu répondre à votre commentaire du journaliste sur la journée mondiale.
Merci, Carlos. Je voudrais préciser à l'intention de notre confrère que cette date n'a pas été dédiée à l'assassinat de ces deux journalistes. Sur les 600 journalistes qui ont été tués pendant ces 10 ans, si vous allez dans les sites de l'UNESCO, vous trouverez au moins, il y a une trentaine ou une vingtaine qui ont été tués pratiquement dans la même période, donc presque dans la même date. Mais là, il s'agit de tout dernier assassinat des journalistes qui ont été le plus en vue et qui sont le plus récents. Nous l'avons évoqué tout simplement pour rappeler, mais ça n'a pas une incidence sur le choix de la date. Merci.
Merci beaucoup. On va essayer de nouveau Goma pour voir si les problèmes techniques sont résolus. Goma, Martha, est-ce qu'on peut avoir une question de Goma?
Oui. Moi, on m'appelle Vivian Zabarinda, je suis journaliste à la radio Moutani. Une question qui concerne les droits de l'homme. La question s'adresse à Abdulaziz, qui nous a présenté certaines situations des droits de l'homme. Alors, ma question concerne l'application d'un officier policier congolais résident au Sénégal et accusé pour son implication dans la l'assassinat de Florida Garcia et son chauffeur Fidel Bazana. Et étant donné que la question a eu à Lizardé traîné ici en RDC, et c'est, voilà, ça a traîné à la justice congolaise. On peut savoir ce que vous en pensez, mais aussi qu'est-ce qu'on en pense pour la continuité du procès en question. Merci.
C'est pas bien entendu la question, mais je suppose qu'il fait référence.
Il fait référence au procès qui a commencé aujourd'hui au Sénégal.
Ok. Donc,
GBA.
Oui. Je ne réponds pas en tant que Sénégalais, mais je réponds en tant que directeur adjoint du bureau conjoint des droits de l'homme. Ce que je peux juste dire, c'est que cette procédure se tient en dehors du Congo. Donc, évidemment, le cas nous intéresse. C'est un cas que nous avons suivi et que nous continuons encore à suivre. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal a réaménagé sa législation il y a quelques années pour, dans le cadre des poursuites qui avaient été initiées contre Hissène Habré. Et du coup, dans la procédure, dans le code de procédure pénale, il y a des dispositions qui permettent aujourd'hui de poursuivre en réalité des personnes qui auraient été auteurs de crimes graves dans leur pays et qui se seraient réfugiés, qui se trouveraient sur le territoire d'une forme de compétences universelles qui est aménagée par le Sénégal dans sa législation et qui lui permet aujourd'hui de pouvoir poursuivre cette personne présumée impliquée dans l'assassinat de Floribert Chebeya. Ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, pour nous, les droits de l'homme, c'est un cas extrêmement intéressant de lutte contre l'impunité et qui montre effectivement que en réalité, au-delà des frontières, il y a une possibilité de se saisir de n'importe quel présumé auteur ou auteur réel de faits graves qui auraient été commis dans un pays mais qui se retrouveraient sur le territoire de notre pays. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer et nous espérons que ça va permettre peut-être de faire jaillir la vérité sur véritablement ce qui s'est passé concernant la mort de ce défenseur des droits de l'homme et de son chauffeur.
Merci. Merci beaucoup. Et avec cette réponse sur les droits de l'homme et le cas Chebeya, nous arrivons à la fin de cette conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Une fois de plus, on vous rappelle que vendredi à 11h ici dans cette salle, Saïd Djinit va donner une conférence de presse sur sa première visite ici en RDC. On vous attend tous ici le vendredi. Merci d'avoir été à notre compagnie. Nous rendons maintenant l'antenne à Radio Okapi.